Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle des triplés, youhou! On parle des triplés, oui c'est dur d'avoir un enfant, c'est dur d'avoir des jumeaux, imaginez avoir des triplés, voilà. Bien sûr vous vous êtes mis à leur place, et ben on va entendre Chiara. Chiara c'est une maman formidable, vous allez l'entendre, il en faut de l'énergie pour être maman de triplé, et ben elle va nous raconter l'annonce de la grossesse, l'accouchement, les premiers mois, tout ça, avec trois enfants, comment ça se passe, comment on s'organise, comment on continue d'avoir sa propre vie à soi aussi, bien sûr, donc on écoute Chiara, et juste après, nous serons avec le professeur Salomon de Necker à PHP à Paris, c'est parti.
Alors évidemment, c'est pas à vous qui nous regardez que je vais dire que quand on a un enfant, forcément, c'est déjà un bouleversement. Mais alors imaginez quand on a pas un, pas deux, mais trois enfants en même temps. Chiara, bonjour.
Bonjour Agathe.
Alors avec Thibaut, vous êtes les heureux parents de triplé, âgés de 6 mois. Il y a Charlize, Matisse et Alessandro, trois trop beaux prénoms. Vous parlez de votre vie de maman sur de triplé évidemment sur votre compte Instagram qui s'appelle Triplé Couturier. Et en fait, il y a quelques semaines, vous nous avez envoyé la photo de vos trois merveilleux bébés parce que vous le savez, dans le générique de fin, on aime bien voir la frimousse de vos bébés. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attendez, il faut l'inviter, cette maman. Ils sont trop mignons. Chiara, vous avez rencontré Thibaut à 26 ans. On peut dire que ça a été un coup de foudre.
Oui.
C'était un truc de dingue. 6 mois après votre rencontre, vous avez tout plaqué. Vous avez plaqué votre travail, votre appartement à Pau pour vivre avec l'homme de votre vie et vous êtes installée à Toulouse. Et très vite, vous avez envisagé d'avoir un enfant. Est-ce que ça a marché tout de suite?
Oui, alors comme vous le rappeliez, on m'a au départ annoncé que je n'aurais pas d'enfant. À 21 ans, on m'a dit...
On vous dit carrément que vous n'en auriez pas.
Ah ben, si j'en voulais, c'était maintenant, quoi. Si j'attendais trop, ben, je laisserais le coche passer. Donc j'ai quand même préféré attendre plutôt que de faire ça à la hâte, on va dire. Et puis, ben, quelques années plus tard, j'ai rencontré Thibaut. À ce moment-là, moi, j'étais quand même sur une piste de réflexion de faire un bébé toute seule. Je m'étais renseignée au Danemark sur comment c'était possible d'avoir des dons de sperme. Et puis, bon, ben, il s'est avéré que ben, on s'est rencontré avec Thibaut. Ça a été le coup de foudre. Un an après, on décidait d'arrêter la contraception.
Et vous lui avez parlé à Thibaut de vos difficultés potentielles pour être maman?
Immédiatement, parce que lui aussi, c'était un souhait pour lui d'avoir des enfants. Il me l'a dit de suite. Donc, j'ai préféré être très transparente sur le sujet. Et ça ne lui a pas fait peur. Il m'a dit, bah, si on allait rencontrer des difficultés, bah, on s'en sortirait.
Mmh. Et vous êtes tombée enceinte, finalement, assez vite, non?
Un an et demi après l'arrêt de la contraception, du coup. J'ai eu une première grossesse qui s'est malheureusement soldée par une fausse couche à 9 semaines. Donc, ça n'a pas été facile. Mais du coup, on a bien rebondi parce que un mois et demi après, suite à un petit moment de détente qu'on s'était accordé, je suis retombée enceinte. J'en étais sûre que j'étais enceinte.
Et vous avez tout de suite senti que ça avait marché?
Ah oui, oui, je l'explique pas, mais je l'ai tout de suite su que j'étais enceinte. Donc le test positif, puis on fait la première échographie, et là où on nous annonce que le bébé est en parfaite santé, que tout va bien.
Alors, je vous arrête 2 secondes, Chiara, parce que en préparant cette émission, vous nous avez dit, alors déjà un, vous avez tout de suite senti que vous étiez tombée enceinte. Deux, vous étiez quand même particulièrement fatiguée.
Ouais.
Et vous disiez, c'est pas possible, il y en a deux.
C'est exactement ça. Donc, j'étais sûre qu'il y en avait deux. Donc, j'ai demandé à mon gynéco, je lui ai dit, mais vous êtes sûre, vous avez bien fait l'échographie? Et puis, il me dit, oui, il y en a qu'un, madame. Je lui ai demandé de vérifier plusieurs fois, mon mari aussi, ce qu'il lui a dit, écoutez, normalement, elle n'est pas fatiguée comme ça, là, vraiment, elle est épuisée, il doit y avoir quelque chose. Il me dit non, tout va bien, bébé en parfaite santé. Donc on était tout de même très heureux, mais un poil déçus, j'admets.
C'est tellement étonnant. Vous étiez persuadée d'en avoir deux.
J'en étais sûre, mais je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être fatiguée comme ça avec une grossesse classique.
Bon, cela dit, ça crève même un, je peux vous le dire.
J'imagine.
À quel moment est-ce que vous avez découvert que vous n'attendiez pas un bébé, pas deux, mais trois bébés?
Du coup, quelques semaines plus tard...
Vous me racontez tout dans les détails.
D'accord.
Ça, c'est vraiment... Non, donc, mais c'est quand même un moment magique.
Oui, c'est ça. On était le 4 avril, donc on venait de passer Pâques en famille. Donc, on n'était pas chez nous à Toulouse, mais dans une plus petite ville qui est moins équipée, du coup, en matière médicale. Et puis là, Gros malheur, ce qui s'abat sur nous, j'ai de nouveau des saignements, j'ai des très grosses douleurs, donc on part aux urgences un petit peu dépité, hein, clairement, on va aux urgences. Et puis, du coup, mon mari ne peut pas assister à l'échographie avec moi.
Parce que c'est une période de Covid,
exactement. Et du coup, l'échographe me dit, mais madame, c'est normal que vous ayez mal, votre utérus, il grossit 3 fois plus vite. Je lui dis, comment ça? Ben, madame, c'est normal, avec des triplés, ça grossit 3 fois plus vite. C'est normal que vous ayez mal, que vous ayez des saignements.
Vous l'avez sorti comme ça?
Et alors, je l'ai regardé, j'étais très hilar. J'ai été hilar pendant un bon moment. Du coup, il me dit, arrêtez, je peux pas voir. Je lui dis, mais oui. Et puis, je l'ai annoncé à mon mari avec le gynécologue. Je lui ai demandé de m'accompagner quand même pour l'annoncer, qui ne croit pas à un poisson d'avril. Et puis, on a été heureux, surpris, mais très heureux. Et du coup, ça a confirmé mon intuition, même ça a y ajouté un enfant supplémentaire. Quoi.
Mais c'est fou. En fait, l'échographiste, il était persuadé que vous le saviez déjà, en fait.
Oui, il était persuadé que je le savais déjà, donc il n'a pas pris de gants du tout. Il me l'a annoncé comme ça, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop discuté avant qu'il me mette immédiatement la sonde échographique sur le ventre. Et du coup, il pensait que j'étais informée.
Trop génial. Voilà. Alors, c'est vrai que généralement, comme ce sont des grossesses à risque, il peut y avoir des complications avec les grossesses triplées ou quadruples. On propose souvent une réduction embryonnaire. Est-ce que ça a été votre cas?
Alors, nous, on ne nous l'a pas proposé, en fait. Au début, on nous l'a présenté comme la seule possibilité. C'est-à-dire que, justement, la première fois que j'ai découvert que j'attendais des triplés, la première chose qu'on m'a dit, c'est « vous en faites pas, on va vous proposer une réduction embryonnaire ». Et puis, nous, on n'a pas voulu, quoi. On voulait savoir comment ça allait. Et puis, on a rencontré, du coup, l'autre échographiste qui nous a suivis pendant toute ma grossesse, qui, là, elle m'a expliqué que c'était vraiment un choix des parents. Elle m'a expliqué les risques de la prématurité. Elle nous a présenté aussi, du coup, les risques de la réduction embryonnaire et nous a permis de faire notre choix, en fait, en fonction de l'échographie T1, du coup, où on connaît, un petit peu plus sur la santé des bébés.
Vous en étiez à quel moment de votre grossesse, là? Quand vous parlez de tout ça avec le personnel médical?
J'en étais à 2 mois, je dirais.
Oui, 2 mois. Et vous avez fait l'échographie et tout allait bien?
Ah oui, tout allait bien. Ils étaient même au-dessus des courbes de croissance, les enfants, avec une clarté nucale super. On a eu même des tests génétiques pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème. Tout allait bien.
Donc, il n'y avait pas de raison.
Non.
Et cela dit, donc, vous avez pris votre décision. Déjà, de toute façon, vous l'aviez prise, je pense, dès l'annonce. Vous dites, en préparant cette émission, que vous êtes sentie jugée, en fait, par le personnel médical.
Complètement. Notamment, mon gynécologue, celui qui n'avait pas vu, du coup, les deux autres, qui m'a dit que j'étais complètement folle de faire des triplés avec un mari militaire, qu'il allait préférer être à la guerre plutôt qu'à la maison avec nos enfants. Voilà. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, bien évidemment. Donc voilà, ça a été ce genre de phrase.
Vous nous donnerez l'adresse de ce gynécologue qu'on n'avait pas le voir quand même.
Surtout que c'est quand même quelqu'un qui a une très bonne réputation, mais bon. On m'a aussi dit que j'étais proche de la grossesse gériatrique à 29 ans, pour une grossesse triple. Oui.
À cause de votre âge, je comprends
Alors,
pas.
Alors, je ne sais pas. On ne m'a pas donné plus d'explications, mais oui, visiblement.
Heureusement qu'ils ne m'ont pas rencontrée quand j'étais enceinte, à 39, donc.
Voilà.
Comment vous êtes sentie pendant votre grossesse, Chiara? Parce qu'évidemment, quand on attend des triplés, on appelle ça peut-être une grossesse un peu plus précieuse. Vous avez été très suivie. Et vous, comment est-ce que vous aviez des angoisses?
Alors, on va dire que tout allait très bien pour moi. J'ai eu beaucoup de chance. Bon, certes, j'étais fatiguée et chaque mois avait son lot de petites complications, des vertiges, des choses comme ça. Rien de plus spectaculaire, on va dire, qu'une autre grossesse, hormis la fatigue. Mais
vous êtes mariée même à 6 mois de grossesse.
On s'est mariés du coup à 6 mois de grossesse avec mon mari. Et puis par contre, on a eu une mauvaise surprise un petit peu plus tard, donc juste à la suite de mon mariage où j'ai dû être hospitalisée parce que mon fils Alessandro du coup avait un raccord avec le placenta qui n'était pas très bon.
Oui. Donc il grossissait plus.
C'est ça.
Ouais. On a vu votre ventre là quand même. Ça devait être quelque chose hein, pour le dos et tout à porter.
Ouais.
Oui, alors donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est très angoissant. 3 semaines plus tard, à 31 semaines de grossesse, plus 6 jours. Donc, il faut juste savoir qu'à 32 semaines, sans aménorrhée, on sort de la grande prématurité. Donc, c'est vraiment un moment charnière. Et là, les médecins ont décidé de vous faire accoucher en urgence parce que le rythme cardiaque d'Alessandro ralentissait. Comment s'est passée la naissance, alors, de vos 3 merveilleux bébés?
C'était splendide parce qu'on nous avait dit qu'ils pleuraient peut-être pas de par la prématurité, qu'on aurait peut-être besoin de les intuber malgré toutes les précautions qu'on avait prises avant. Et puis, ben non, pas du tout. Ils ont chacun mis leur petit cri. Donc, on a eu d'abord Charlize qui a crié, et puis après, on a eu Mathis qui a crié, et même Alessandro qui a crié. Bon, Alessandro, il était beaucoup plus petit, il faisait 1,2 kg par rapport à 1,8 kg pour Charlize et 1,9 kg pour Mathis. Bon, c'est quand même des tout petits bébés.
Oui, c'est vrai quand même, pour des triplés et des prématurés, ça allait, non,
oui,
au niveau des
oui,
poids
oui,
quand
ça
même.
Allait, c'est ce qu'on nous a dit, que ça allait. Bon, et c'est vrai que bon, c'était quand même impressionnant, et puis ils étaient tout emmitouflés dans tout leur petit matériel, tout leur kit préma, là. Donc, on avait au début presque un petit peu du mal à les distinguer des uns des autres. On voyait des petits bébés rouges, tout emmitouflés. Et puis après, ben, on a appris à les connaître, à savourer chaque moment. Et puis, ils ont été trop forts, quoi, parce qu'on a la néonate, on y est resté un mois et demi. Ils ont franchi toutes les étapes super bien. Et on a eu des bébés qui se sont très bien adaptés, quoi, à la vie sur Terre.
Alors, pour votre information, vous qui nous regardez, avec des triplés, le deuxième mois, voilà, faut compter 12 biberons par jour, 15 changements de couche. Est-ce que vous vous étiez prête à ça quand vous êtes rentrée de la maternité, avec un mari qui est évidemment très souvent absent?
Alors, on a eu beaucoup de chance, pareil, parce que la néonate, malgré tout, c'est très formateur. Et grâce au congé paternité et au congé d'hospitalisation, mon mari a pu en profiter aussi. Donc, on était, je dirais, super bien formés. On avait notre routine en sortant de la néonate. Et en plus de ça, on avait répondu à toutes nos interrogations. Et on était beaucoup moins inquiets, parce que ben, si on nous laissait sortir, c'est que nos enfants allaient bien. Donc oui, c'était un rythme endiablé, mais on a réussi à tenir le coup.
Professeur Laurent Salomon, merci. Bonjour, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris et vous êtes spécialisée dans le suivi des grossesses à risque. Alors moi, ce qui m'a frappé évidemment dans le témoignage de Chiara, c'est cette pression qu'on lui met pour cette fameuse réduction embryonnaire. Est-ce que ça vous étonne déjà qu'il y ait une pression comme ça? Et pourquoi est-ce qu'on propose ça?
Alors, effectivement, il ne devrait pas y avoir de pression particulière. On discute à chaque fois dans ces cas-là de la réduction embryonnaire avec les couples. Et c'est une décision qu'on doit prendre ensemble. Après, il n'y a pas de pression médicale particulière normalement. Et on ajuste toujours un petit peu le discours aussi en fonction des antécédents de chaque couple, de leur histoire médicale. Mais c'est tout à fait une décision qui doit être prise collégialement avec le couple.
Alors, beaucoup de questions aujourd'hui. Marie vous demande pourquoi dit-on que les grossesses multiples sont des grossesses à risque? Est-ce que c'est un risque qui concerne la maman ou les bébés ou les deux?
Alors, c'est les deux, exactement, vous avez raison, ou les trois ou les quatre, quand c'est des triplés. C'est des grossesses qui sont plus à risque. Le risque numéro un, c'est vraiment la prématurité, puisque toutes ces grossesses, même quand elles se passent parfaitement bien, vont se terminer prématurément. Oui. Ça sera une décision médicale. Au plus tard, si on arrive à 36 semaines, ce qui est exceptionnel, pour des triplés, on va décider de faire naître les enfants. Donc, prématurité dans tous les cas. Ensuite, plus de complications, en particulier des complications liées au placenta. Placenta qui a du mal à fonctionner de manière optimale, et ça peut entraîner des complications pour les bébés, retard de croissance, etc.
Comme il y a eu dans l'histoire.
Exactement, comme pour Alessandro. Et ces problèmes placentaires peuvent aussi avoir des conséquences pour la maman. C'est ce qu'on appelle la pré-éclampsie, l'hypertension gravidique, etc. Tout ça, ça peut être des conséquences donc, de ces dysfonctions placentaires. Donc finalement, des risques pour le bébé et pour la maman aussi, avec également un peu plus de complications hémorragiques à l'accouchement. Donc c'est des grossesses qui sont plus à risque pour tout le monde.
Laurence vous demande comment se passe une réduction embryonnaire? Comment est choisi l'embryon?
Alors c'est une bonne question, c'est un geste qui se fait en général à peu près au moment de l'échographie du premier trimestre, sous contrôle échographique bien entendu, donc on va contrôler tout ce qui est fait avec une échographie, et c'est un geste qui est assez proche d'une amniosynthèse, on utilise une aiguille qui est comme une aiguille d'amniosynthèse, et on va en fait anesthésier un des embryons, et simplement il y a une sorte de surdose de produit anesthésique qui va conduire progressivement à l'arrêt de l'activité cardiaque sur cet embryon. Alors comment on choisit? C'est un geste qui est à risque, comme... on va en parler tout à l'heure, c'est pour ça que c'est toujours discuté avec les parents, de discuter le bénéfice-risque, et donc prioritairement on va choisir l'embryon pour lequel techniquement ça semble le plus simple pour essayer de diminuer au maximum le risque du geste. Et puis parfois aussi, il se peut, et c'est la raison pour laquelle on fait juste après l'échographie du premier trimestre, que pour un des embryons, on ait un doute sur son développement tout à fait normal, il peut y avoir un doute sur une potentielle malformation, etc. Et
donc là, quand, ça vous
quand
facilite
c'est le cas,
le
voilà,
choix,
ça facilite le choix de l'embryon, exactement.
Delphine vous dit enceinte de triplé à 34 semaines. Je vais bien, mes bébés aussi. Mon gynécologue vient de me déclencher la semaine prochaine. Pourquoi ne pas laisser la grossesse se poursuivre naturellement? On en a parlé précédemment. Je crois qu'il y a aussi des risques pour l'utérus, non, lui-même?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des triplés qui se développent dans l'utérus, ça fait une charge monumentale pour cet utérus. Et globalement, on considère qu'un utérus a du mal à tolérer plus de 6 à 7 kilos de bébés, qui sont à peu près les poids auxquels on va arriver aux alentours de 34 semaines. Donc c'est toujours une discussion, là encore, qui est faite au cas par cas, en fonction du type exact de grossesse triple, des antécédents de la maman, de comment elle tolère cette grossesse. Mais il y a un consensus médical pour dire que le terme optimal, c'est entre 32 et 36. Quand on arrive à 34, c'est déjà magnifique. Peut-être essayer de grappiller encore quelques jours si vraiment tout va bien, mais il ne faut pas être trop gourmand.
C'est ce que visiblement son gynéco veut. La semaine prochaine, 35 semaines, c'est super.
C'est fantastique.
C'est fantastique. C'est fantastique. Vous-même, vous avez déjà accouché des quadruplés.
Ça arrive.
C'est vrai?
Oui.
Et là, vous êtes combien en...
C'est césarienne, là, dans ces cas-là?
Césarienne.
Obligatoire.
Oui. Parce qu'en plus, c'est une grande prématurité, donc forcément, ça va être une naissance par césarienne parce que les fœtus sont extrêmement fragiles. Ils auraient du mal à tolérer une naissance par les voies naturelles. Et ça fait effectivement beaucoup de monde et ça fait des prématurés, forcément.
Donc là, c'est programmé, je veux dire, vous êtes un chef d'orchestre, tout le monde sait ce qu'il a à faire.
C'est malheureusement pas toujours programmé parce que souvent, on se laisse surprendre par une complication et donc d'un seul coup, il faut décider de faire naître les enfants, il faut rameuter toutes les équipes, sage-femme, néonate, pédiatre, etc. Donc ça fait beaucoup d'agitation et une naissance par césarienne qui met la maternité à feu et à sang pendant quelques heures.
Voilà.
Et un pédiatre par enfant, donc pas quatre pédiatres avec vous derrière qui attendent.
En général, il faut essayer d'avoir un pédiatre par enfant.
On s'en souvient, j'imagine.
On s'en souvient, et surtout la maman.
Lydie nous dit, j'adore... Oui, surtout la maman. Tu m'étonnes. J'adorerais avoir des jumeaux ou des triplés. Peut-on faire quelque chose pour favoriser une grossesse multiple?
Alors, de la PMA.
On sait que les techniques de PMA favorisent les grossesses multiples, mais je ne pense pas du tout qu'il faille souhaiter une grossesse multiple. Ça a un côté un petit peu magique, les jumeaux, les triplés, on se dit c'est fantastique, c'est extraordinaire, on fait deux bébés d'un coup, etc. Certes, mais c'est quand même vraiment des grossesses à risque, donc il ne faut pas souhaiter ces grossesses multiples. Quand elles arrivent, on sait les prendre en charge au mieux, et heureusement, maintenant, le plus souvent, ça se passe très bien.
Mylène vous demande si on peut allaiter des triplés.
Oui, c'est possible, avec beaucoup de courage.
Techniquement, c'est possible. Oui, c'est ça. Ah. Ouais. Je crois que c'est bon, le courage.
C'est ça.
Oh, déjà, l'acte de sein, quand même, a priori.
Ah, oui. Alors, justement, Chiara nous disait tout à l'heure en coulisses qu'avec les triplés, elle avait dû les laisser pleurer. J'ai l'impression que c'est effectivement, si on a envie de les allaiter, ça doit être ça, non?
C'est difficile, c'est toujours un équilibre à trouver entre les bébés et la maman. Il faut essayer de faire au mieux. Mmh. Et ça va être en tout cas difficile de faire un allaitement maternel exclusif.
C'est-à-dire que c'est du H24, quoi. C'est-à-dire qu'en fait,
on allaite
et on tire son lait pour pouvoir peut-être allaiter les trois après.
Il y a des tours qui se passent automatiquement. Parfois, on démarre avec le premier. La fois d'après, ce sera le deuxième qui se réveillera avant le premier. Oui. Donc, et puis, parfois, le papa aide en donnant un biberon. C'est pas mal de faire du mix, parfois, avec le lait de la mère. Enfin, chacun trouve un peu un... Pas simple.
Pas simple.
Quelle énergie. Fleur vous demande s'il est possible d'accoucher triplé par voie basse.
Techniquement, c'est possible. Ça se fait, ça s'est fait. On a tendance quand même de plus en plus souvent à faire des césariennes parce que ça peut être des accouchements qui sont compliqués. On cherche à limiter les risques.
Mmh. Vous avez des craintes pour le dernier qui sort ou pas?
Alors, la crainte, ce n'est pas forcément pour le dernier, c'est essentiellement pour le deuxième et le troisième, quand il y a une grossesse multiple. Le premier, en général, c'est le plus simple parce que c'est un premier qui se présente la tête en bas. Mm-hmm. Et puis, c'est pour les manœuvres, pour aller chercher le deuxième ou le troisième, que ça peut être plus compliqué.
Et d'ailleurs, comment ils sont
Tous les sens.
Ils sont dans tous les sens, oui, c'est ça. Parce que c'est le premier qui a la tête en bas, forcément.
En général, pour accepter un accouchement par les voies naturelles,
il faut qu'il y en ait au moins un qui soit...
Le premier soit la tête en bas. Et puis le deuxième et le troisième peuvent être dans toutes les positions possibles. Et surtout, au moment de l'accouchement, ils peuvent changer de position. C'est-à-dire que comme d'un seul coup, ils ne se retrouvent plus qu'à deux, voire tout seuls, dans une chambre où il y avait de la place pour trois.
C'est ça.
Ils font les culbutes.
Ben oui, ils en profitent, les pauvres.
Émilie est enceinte de jumeaux. Mon gynécologue m'a parlé d'une grosse équipe médicale en salle d'accouchement. Ce n'est pas ce dont j'avais rêvé pour mon premier accouchement, évidemment. Comment déroger à la règle? C'est
pas possible. Il ne faut pas déroger à la règle.
C'est une mauvaise idée.
Voilà.
Et vous pouvez nous dire, parce qu'on disait 15 personnes, il y a qui, en fait?
Alors, en fait, il y a en général toujours un, voire deux obstétriciens, parce qu'il y a souvent un junior et puis un senior. Il y a en général toujours un pédiatre par enfant, souvent une sage-femme par enfant, un anesthésiste, une infirmière anesthésiste, éventuellement un interne d'anesthésie, des auxiliaires de puériculture, plus des gens qui peuvent être là pour faire un peu le relais, aller chercher du matériel, etc. Donc effectivement, on arrive assez vite à 15 personnes.
Vous disiez tout à l'heure, chacun sait précisément ce qu'il a à faire, c'est de l'opéra, quoi.
Oui, chacun joue sa partition.
Ouais.
Mélanie vous dit « J'attends des jumeaux, on m'a dit que la péridurale était obligatoire à l'accouchement. Est-ce que c'est vrai? Si oui, pourquoi? Est-ce que les douleurs des contractions sont plus importantes ?»
Alors, ce n'est pas tellement pour les douleurs des contractions.
Donc, c'est vrai.
C'est vrai qu'il faut une péridurale. Alors, évidemment, il y a des femmes qui ont accouché dans l'histoire de jumeaux sans avoir de péridurale. Mais aujourd'hui, c'est largement recommandé. Pas spécialement pour les douleurs, mais surtout parce qu'il va falloir accomplir des manœuvres pour aller chercher parfois le deuxième. Et pour faire ces manœuvres, il faut que la maman soit anesthésiée au moins sur le bas du corps.
D'accord.
Sinon, c'est trop douloureux.
Ouais, sinon, c'est trop compliqué.
Et puis, c'est aussi, si jamais il y a une urgence comme ça...
C'est vrai aussi.
Vous avez vu, docteur Le Caron quand même, professeur,
excellent,
non ?
Excellent, excellent.
Vous avez vu,
philosophe et docteur. Incroyable.
C'est incroyable. Donc je suis multitâche.
Et alors les manœuvres dont il parle, c'est quoi ?
Bah par exemple, parfois il faut retourner le bébé. Donc voilà, pour le mettre dans le bon sens.
Là, c'est la philosophe qui parle.
Ouais, plus que la médecin visible. Bon,
écoutez, ça va.
Elle a le geste. Hein.
Oui, mais j'ai le geste. Ah, je me suis trompée sur le truc, mais j'ai le geste. Regardez.
Non, mais ça peut être des manœuvres intra-utérines ?
Absolument.
Ah, oui, c'est ça.
Absolument. C'est-à-dire que.
D'où l'intérêt de la péridurale.
Le deuxième enfant, soit il se présente immédiatement avec la tête aussi en premier, et on va faire un accouchement classique, soit on va faire ce qu'on appelle une version par manœuvre interne, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les pieds de l'enfant pour le faire sortir.
Ah, d'accord. Par manœuvre interne, ok.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de grossesses multiples, vous demande Nicolas ?
Alors, globalement, sur les 30 dernières années, oui, ça a augmenté. Maintenant, c'est à peu près stabilisé. Ce qui a contribué à l'augmentation, ça a été beaucoup l'essor des techniques de PMA, puis aussi l'augmentation de l'âge des mamans au moment de la grossesse, parce qu'on sait que ça augmente un petit peu le risque de grossesse multiple. Et puis maintenant, c'est relativement stabilisé, en particulier parce qu'en PMA, aujourd'hui, on fait très attention d'essayer de limiter ce risque de grossesse multiple.
Juliette vous dit « J'attendais 3 bébés, mais j'en ai perdu un en tout début de grossesse. Y a-t-il des risques pour les suites de ma grossesse et des conséquences pour mes 2 bébés ?»
Alors, c'est une bonne question. Ça dépend un petit peu du type de grossesse triple, parce que dans certains cas, si justement le fœtus qui a arrêté de se développer partageait le placenta avec un autre des fœtus, ça peut avoir des conséquences, mais le plus souvent, ça n'a pas de conséquences. Et quand on parle de conséquences pour les autres bébés, on pense peut-être à des conséquences psychologiques pour après, etc. A priori, on ne le pense pas.
Rima est enceinte de jumeaux, 3 mois de grossesse, elle a dû faire un cerclage, elle vous demande si elle peut à nouveau bouger comme elle le veut ou est-ce qu'elle doit continuer de faire attention ?
Très difficile de répondre, ça dépend exactement de sa situation médicale. Le plus souvent, on peut reprendre une activité normale. Pour prévenir le risque de prématurité, vraiment, le repos strict au lit ne sert à rien, ça a été bien démontré, c'est même plutôt délétère. Il faut avoir une activité calme, donc je pense qu'elle peut se lever, mais c'est vraiment des choses qu'il faut voir avec son médecin.
Oui, bien sûr, il n'est pas question de donner un conseil spécifique, mais globalement, la marche pour les femmes,
il y a pas de problème.
C'est recommandé quand même.
Tout à fait, absolument.
Le mouvement, c'est la vie.
Exactement.
Ça, c'est la philosophe, par exemple.
Voilà.
Laura vous dit, je prends un traitement, un médicament pour stimuler l'ovulation, Clomiphène. Ce traitement augmente-t-il la probabilité d'avoir des jumeaux ou des triplés ?
Absolument.
Ok.
Donc, bon, il faut être prudent.
Ok.
Ninon vient d'apprendre qu'elle attend des triplés, dis donc. J'ai eu un peu peur de la grossesse et notamment de la taille que va prendre mon ventre. À quoi va-t-il ressembler en fin de grossesse ?
On n'a pas de photo.
Rien.
Non, mais on peut arriver effectivement à des utérus qui sont très distendus. Comme on le disait tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à des utérus qui contiennent 6 à 7 kilos de bébés. Donc c'est vrai que ça fait une grosse distension. Donc elle va avoir un gros ventre.
Ouais, mais c'est chouette.
Voilà.
C'est génial.
Eva vous dit, la révision utérine est-elle fréquente en cas d'accouchement de jumeaux et triplés ? Quels sont les risques si elle n'est pas faite ? Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une révision utérine ?
Alors, la révision utérine, c'est le geste qui consiste, juste après l'accouchement, à mettre la main, justement, dans l'utérus de la maman qui vient d'accoucher, pour aller parfois sortir le placenta s'il n'est pas sorti spontanément, et puis pour aller vérifier que la cavité utérine est bien vide, ce qui est la condition indispensable pour que l'utérus puisse bien se rétracter juste après l'accouchement et que le risque hémorragique soit limité. Donc la révision utérine, elle est plus fréquente pour les grossesses multiples, mais elle n'est pas absolument obligatoire. Ça va dépendre si le placenta sort facilement et si on a l'impression que le placenta est sorti dans sa totalité ou non.
Merci au professeur Salomon, merci à Chiara et merci surtout à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différentes plateformes parce que ça nous aide beaucoup. Au revoir tout le monde.